Dans un monde où l'on s'intéresse beaucoup au spectaculaire et où on fait parfois du spectaculaire avec des choses parfaitement inintéressantes, je vous propose ce matin de poursuivre la lecture du livre de Ruth. C'est vrai que le premier chapitre du livre de Ruth, dont nous a parlé Jean-Marc il y a 2 semaines, si vous vous souvenez, commence par des événements tragiques. Mais pris dans son ensemble, le livre de Ruth, l'histoire de Ruth parle de choses de la vie quotidienne, de relations, de personnes, de difficultés, de vie. C'est une histoire qui, je trouve, si vous la lisez dans son ensemble, fait du bien par sa simplicité. Le livre de Ruth nous rappelle que le Dieu de l'univers, le Dieu extraordinaire dont nous avons parlé tout à l'heure, le Dieu créateur, sauveur, est également intéressé par les petites choses ordinaires et simples, par les personnes ordinaires, par les situations ordinaires, par l'histoire d'une certaine Noémie et d'une certaine Ruth qui vivaient en Juda à l'époque des juges. Jésus, vous le savez, nous a appris à prier pour le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il nous a parlé d'un Dieu, le Père céleste tout-puissant, qui sait quand un moineau tombe du ciel, qui sait lorsqu'un verre d'eau est offert à quelqu'un qui a soif. Un Dieu qui se préoccupe des choses ordinaires. Si Dieu s'est intéressé à ce qui est arrivé à Noémie et Ruth, s'il s'est préoccupé de la détresse de ces deux femmes qui vivaient dans un lieu inconnu, à une époque peu intéressante, il faut bien le dire, dans un petit coin du monde, au point que leur histoire soit racontée dans un petit livre qui se trouve, même si on a parfois un peu de mal à le repérer, entre le livre des Juges et les deux livres de Samuel. Si Dieu a fait cela, alors il s'intéresse certainement aussi aux petites choses de notre vie. Rien n'est insignifiant pour Dieu. Alors oubliez un instant, chers amis, le monde dans lequel nous vivons, oubliez vos téléphones portables et vos GPS. L'histoire que nous allons lire se passe dans un tout autre monde. C'est un monde rural. Un monde où on ramasse du blé dans les champs, à la main, plus d'un millénaire avant Jésus-Christ. C'est une petite ville qui est connue aujourd'hui et qui va avoir une histoire exceptionnelle, mais qui n'est pas du tout connue à l'époque, la ville de Bethléem. C'est une époque où il arrive que des gens soient poussés sur les routes par la famine, mais ça arrive encore aujourd'hui. Élimélec, je résume l'épisode précédent, pour vos mémoires ou pour ceux qui l'auraient manqué, Élimélec, Noémie et leurs deux enfants ont dû quitter Bethléem à cause de la famine, justement. Ils sont partis pour l'étranger, au pays de Moab. Là, Élimélec est mort. Ses deux fils ont épousé des femmes du pays. Et puis, tragiquement, ils sont morts, eux aussi. Il n'y a pas d'explication, pas de raison, mais c'est très dur. C'est comme si Dieu lui-même s'était mis en travers du chemin, avait voulu s'en prendre à ces deux femmes. Un jour, on apprend que la famine est terminée. Noémie décide de rentrer à Bethléem. Elle renvoie ses deux belles-filles dans leur famille d'origine. Mais Ruth, l'une des deux, décide de rester avec elle. Et elle a cette parole qui avait été mise en valeur dans le premier épisode, je ne sais pas si vous vous souvenez. Où tu iras, je te suivrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Bon, au sens contraire, mais c'est la même chose. C'est ce que Ruth avait dit. Noémie et Ruth rentrent donc à Bethléem où elles se trouvent, vous l'imaginez, dans une situation très précaire. Voilà ce dont nous avions parlé il y a 15 jours. Donc je vous propose d'ouvrir le livre de Ruth et de lire le chapitre 2, en tout cas une partie, à partir du verset 1er. Livre de Ruth, chapitre 2, verset 1er. Noémie, ou Naomi, selon vos préférences, avait un parent du côté de son mari, un homme riche et puissant de la famille d'Élimélec nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Noémie, permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. Noémie lui répondit, va, ma fille. Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz, ce fameux parent d'Élimélec. Un peu plus tard, Boaz lui-même vint de Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant « Que l'Éternel soit avec vous !» et ils lui répondent « Que l'Éternel te bénisse ». Boaz demande au serviteur qui était responsable des moissonneurs « À qui est cette jeune femme ?» Le responsable des moissonneurs lui répondit « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et s'est à peine reposée un instant. » Boaz dit à Ruth « Écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonneront et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer et si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. » Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna et lui dit « Pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère ?» Boaz lui répondit « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère, ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » Ruth dit « Mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconforté. Tes paroles me touchent, moi ta servante. » Bien que je ne sois même pas au rang de tes servantes. À l'heure du repas, Boaz lui dit « Approche-toi et viens prendre un morceau de pain, trempe-le dans la vinaigrette. » Alors elle s'assit aux côtés des moissonneurs et Boaz lui offrit des épis grillés. Elle en mangea à satiété et garda le reste. Quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs « Permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes sans la rabrouer. » Laissez même tomber exprès pour elle quelques épis et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser. Et ne lui faites pas de reproches. Ainsi Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle battit les épis qu'elle avait ramassés. Il y avait 40 litres d'orge. Elle l'emporta, rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les épis qui restaient de son repas de midi après qu'elle se fut rassasiée. Et elle les lui donna. Voilà, il y a peut-être des recettes à prendre là, hein, pour la cuisine, pour ceux qui s'intéressent, se demandent que faire avec des épis de blé. Il se trouve que Noémie avait de la famille. Oui, Noémie avait un parent, et cette petite phrase qui est dite comme ça en passant au début de notre texte est essentielle et la suite du récit. Va le montrer. C'est important, la famille. Surtout dans la société israélite où il y avait une sorte d'obligation d'entraide en famille, au sein de la famille. Dieu, le Seigneur, dans les lois qu'il avait données à son peuple, avait prévu une obligation d'entraide familiale. D'ailleurs, fallait-il le mettre dans la loi ? L'entraide au sein de la famille, c'est évident. Ça paraît naturel. Mais qu'est-ce qui est naturel pour l'être humain ? Je me demande si ce n'est pas plutôt l'égoïsme que l'entraide. Toujours est-il que la loi de Dieu avait cette fonction de limiter les effets de l'égoïsme humain et d'encourager les comportements justes et généreux. Et ce parent, cet homme, ce Boaz, qui fait partie de la famille, fait donc partie des gens qui sont susceptibles de venir en aide à Noémie et à Ruth. Mais jusque-là, Noémie et Ruth sont seules. Elles doivent se débrouiller. Elles n'ont rien, elles n'ont pas de ressources. Et on peut même supposer que Noémie, secouée par le drame terrible qu'elle a vécu, n'a plus l'énergie qu'elle avait autrefois. Dieu, dans sa loi, avait prévu des cas comme celui de Ruth, comme celui de Noémie. La loi de Dieu donnait, vous le savez, aux veuves, aux orphelins, aux étrangers, c'est-à-dire aux personnes sans ressources, le droit de ramasser les épis de blé qui était laissée dans le champ par les moissonneurs, et même la loi de Dieu allait plus loin. C'est-à-dire qu'elle demandait explicitement aux moissonneurs de ne pas aller jusqu'au bord du champ, de laisser un petit peu de blé. Et si le champ n'était pas un champ de blé, mais une vigne, elle demandait aux vendangeurs de ne pas ramasser les grappes qui étaient tombées à terre, et puis de ne pas retourner pour ramasser les fruits qui auraient été oubliés. C'était les Restos du Cœur de l'époque, hein. J'ai entendu cette semaine un pasteur qui racontait que Dans son église, il ramasse les invendus, non pas des champs de blé, mais des grandes surfaces des environs, et puis ils font des colis et ils les donnent à des personnes sans ressources. Voilà. Ça, c'était déjà dans la loi de l'Ancien Testament. Une invitation à la générosité. Mais pourquoi le mettre dans la loi? Ça paraît naturel de laisser quelques épis de blé au bord des champs pour les veuves et les orphelins. Mais qu'est-ce qui est naturel chez l'être humain? Est-ce que c'est la générosité ou est-ce que c'est l'égoïsme? Et Ruth le sait, puisque vous avez entendu ce qu'elle dit. Elle dit, je vais aller ramasser des épis de blé là où on m'accueillera gentiment, aimablement, là où je serai autorisée à le faire. Mais normalement, elle n'a pas besoin d'autorisation, la loi est de son côté. Mais si la loi invite à la générosité et à la justice, évidemment, elle n'a pas le pouvoir de susciter la générosité et la justice dans le cœur humain. Si le cœur est dur comme de la pierre, alors la loi se heurte à un mur de pierre. Mais si le cœur est souple, malléable, s'il est ouvert à l'œuvre de l'esprit, alors la loi de Dieu peut montrer une voie bonne à suivre. Rappelez-vous, frères et sœurs, que la loi de Dieu, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Ça peut paraître un petit peu étrange de le dire comme ça, mais la loi de Dieu reflète ce que Dieu est. Elle reflète le caractère de Dieu. Elle reflète la personnalité de Dieu. Cette loi qui invite à la solidarité familiale, cette loi qui invite à la générosité, nous révèle, nous fait connaître un Dieu généreux, nous fait connaître un Dieu juste. Un Dieu que Jésus nous invite à imiter quand il dit « Soyez bons comme votre Père céleste est bon. » Luc chapitre 6. Tel Père céleste, tel fils, tel Père céleste, telle fille. Vous connaissez le dicton. Sauf que pour Jésus, on n'est plus dans une question de loi, on est dans une question familiale, on est dans une question de ressemblance parentale. Dieu veut nous apprendre à vivre selon sa volonté, mais non pas en nous soumettant à une loi, mais en nous invitant à prendre du temps avec lui, à nous imprégner de sa parole, afin que nous puissions parvenir à mieux le connaître, à mieux le comprendre, à mieux comprendre sa volonté. Tel Père céleste, telle fille, tel Père céleste, tel fils. Voilà le projet de Dieu pour nous. Mais revenons à Ruth. Revenons à Ruth qui est partie chercher des épis de blé dans les champs. Chercher un champ d'abord, ou ramasser des épis. Elle a trouvé un champ, elle est entrée dans le champ où des moissonneurs sont au travail, et voilà que ce champ appartient à Boaz. Ce Boaz, le même, justement celui-là, celui qui est de la famille de Noémie. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de coïncidence incroyable? Je suis sûr que vous avez déjà fait cette expérience, vous arrivez dans un endroit pour la première fois, et là vous rencontrez quelqu'un qui connaît quelqu'un que vous connaissez. Et vous vous dites quand même, c'est fou, le monde est petit. Mais parfois il y a plus que ça. Dans certaines circonstances, il y a des coïncidences, il y a des éléments qui nous font réfléchir, il y a des éléments qui ont du sens. Bien sûr, toutes les coïncidences n'ont pas les conséquences que celle-ci va avoir pour Ruth, et il ne faudrait sûrement pas chercher à interpréter toutes les coïncidences. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Dieu utilise parfois les circonstances? Certains disent, la vie, c'est d'abord des rencontres, des coïncidences, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée et ils disent merci à la vie. Mais nous, chrétiens, nous disons merci à Dieu. Nous disons que Dieu utilise les circonstances et nous remercions le Seigneur pour la façon dont il oriente les choses. Bien sûr, il faut que nous soyons attentifs parce que parfois les circonstances font que nous nous trouvons dans une situation où Dieu a voulu que nous soyons. Et dans cette situation, nous allons pouvoir, parfois involontairement, apporter ou recevoir une parole ou un geste qui seront marquants. Mais il faut avoir les yeux ouverts. Et puis il faut croire aussi que le hasard n'est pas la force qui gouverne le monde. Il y a au-dessus du hasard, si il existe un hasard, il y a une intelligence bonne et généreuse, juste, l'intelligence d'un Dieu qui veut que le plus grand nombre parvienne au salut. Je reviens à Ruth. Ruth, donc, par hasard, rencontre Boz. Et Boz apprend qui elle est et il fait une sorte de prière en faveur de Ruth. Il lui dit « Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » Autrement dit, il demande la bénédiction de Dieu sur Ruth. Vous savez, on fait ça parfois, on rencontre quelqu'un, « Que le Seigneur te bénisse. » Parfois, c'est une parole un petit peu légère, sans trop de conséquences, mais pleine de bonnes intentions. Mais ce n'est pas le cas pour Boaz. En lisant cette histoire, j'ai le sentiment de voir en Boaz l'instrument de la grâce de Dieu. Ses paroles et ses actes nous donnent une idée de ce qu'est la grâce de Dieu. Si vous vous demandez, parce que c'est un mot qu'on emploie facilement, la grâce de Dieu, etc., qu'est-ce que c'est que cette grâce de Dieu ? Regardez Boaz. Son attitude, ses paroles nous font goûter à ce qu'est la grâce. Vous savez, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des témoins, on le dit souvent, c'est-à-dire à être porteurs d'un petit peu de ce que Dieu est. Non pas des petits dieux, bien sûr, ce serait pas possible, mais être porteurs d'un petit peu de sa grâce, d'un petit peu de son amour, de sa bonté, de sa justice. Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Peut-être que quelqu'un soit pour vous cette expression de la grâce de Dieu. Quelqu'un, par une parole, par un geste, dans un moment inattendu peut-être, soit pour vous la définition de la grâce, vous montre, vous renvoie à la grâce de Dieu, eh bien c'est ce que fait Boaz. Et il le fait comment ? Il le fait en allant au-delà de ce qui est demandé. C'est ça la grâce. La grâce c'est ce qui va au-delà de ce qui est logique, qui va au-delà de ce qui est normal, qui va au-delà de ce qui est raisonnable. Ruth a demandé la permission de ramasser quelques épis, de glaner dans les champs après le passage des moissonneurs, et Boaz lui donne plus que ça. Il lui donne à boire, il lui donne à manger, et il prie pour elle et il demande à Dieu de la protéger, et lui-même, Boaz, la protège des serviteurs qui pourraient éventuellement l'ennuyer. Il se met au service de Dieu, au point de devenir lui-même une réponse à la prière qu'il formule. C'est quoi la prière ? Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de, finalement, de prier, de dire Amen, et puis d'ajouter PS, Seigneur, si tu le désires, utilise-moi pour répondre à cette prière. Parce que prier, c'est compliqué, c'est beaucoup de choses, hein, la prière, on ne peut pas le dire en deux mots, mais c'est entre autres, et peut-être surtout, entrer dans les projets de Dieu. C'est quelque chose d'actif. Prier, ça nous engage. On ne peut pas prier pour que les choses aillent dans un sens et puis se lever et partir dans l'autre sens. On ne peut pas prier pour que les choses bougent et rester figé, hein, comme si on était soi-même immobile ou immobilisé. En travaillant sur l'histoire de Ruth, j'ai lu un auteur qui disait, et vous allez me dire ce que vous en pensez, qui disait ceci, en gros, Ruth en fait trop quand même dans cette histoire. C'est louche. Elle cherche quelque chose, elle cherche à se faire bien voir de Boaz et remarquez en effet la politesse de Ruth. Hein. Elle arrive dans le champ, elle demande la permission de ramasser les épis. Face à Boaz, vous l'avez entendu, elle s'incline jusqu'à terre, elle se prosterne et puis elle interroge, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Je ne suis qu'une étrangère, je ne suis même pas digne d'être une de tes servantes. Et puis elle remercie Boaz pour sa gentillesse, etc. Et vous savez, ça paraît louche hein, quand quelqu'un est trop gentil ou trop poli. C'est vrai que Ruth est polie. On ne va pas s'en plaindre. La politesse, c'est quand même agréable. Mais je n'arrive pas à lire le texte comme ça. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'intérêt caché derrière l'attitude de Ruth. Elle ne fait que réagir avec simplicité et reconnaissance à la grâce qui lui est faite. Elle ne cherche pas à acheter quelque chose, justement parce qu'elle sait qu'elle n'a rien à donner. En échange, elle n'a rien à vendre. Elle répond simplement, j'ai l'impression, à la faveur qui lui est faite. Et je trouve qu'il y a dans cet épisode, dans ce dialogue entre Ruth et Boaz, une belle image de la relation entre Dieu et nous, la relation qu'il peut y avoir entre Dieu et nous. Premièrement, Ruth a fait un pas de foi. Tu as quitté ton père, ta mère, tu as quitté ton pays natal comme Abraham. Tu es venu te réfugier sous la protection du Dieu d'Israël. Une démarche de foi, Deuxièmement, à cause de sa foi, Ruth a fait l'expérience de la grâce de Dieu. Et c'est Boaz qui est pour elle l'instrument de la grâce. La grâce, c'est ce qui fait que Dieu nous aime tels que nous sommes, sans raison. Mais c'est par la foi qu'on peut faire l'expérience de cette grâce. Et puis enfin, troisièmement, la réaction de Ruth, c'est la reconnaissance et la simplicité, parce que celle qui se trouve au bénéfice de la grâce de Dieu ne peut pas se dire « si Dieu a été bon pour moi, c'est parce que... » C'est parce que, vous voyez, c'est sûrement quelque part parce que j'ai fait quelque chose ou parce que je l'ai peut-être un petit peu mérité. Attention, Dieu aime bien sûr que nous faisions sa volonté. Dieu aime que nous accomplissions la justice. Dieu aime que nous agissions avec bonté. Mais si nous commençons à penser que la grâce peut s'expliquer, que la grâce peut se négocier, que la grâce peut s'acheter, alors nous sommes sur une pente dangereuse. Parce que le Nouveau Testament le dit très clairement dans l'Épître aux Éphésiens, vous avez ce texte, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Je pense que vous l'avez déjà entendu, cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit de quoi que ce soit que nous aurions accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu seul. Mais voilà, c'est la fin de l'épisode. Il faut que j'en laisse un peu pour les suivants. Ruth rentre chez elle, elle a 40 litres d'orge, ça fait 30 kilos d'après ce que nous disent nos notes de Bible, c'est beaucoup. C'est même abondant quand on pense au vide du premier chapitre, elle n'avait rien, rien du tout. Boaz a traité Ruth comme si elle était membre de sa famille, mais justement elle l'est. Oui, mais elle ne le sait pas. Elle ne sait pas qui est cet homme qui a fait preuve de bonté à son égard. Bien sûr, nous le savons, parce qu'on nous l'a dit dès le début, mais elle ne sait pas, elle est surprise, elle ne comprend pas, elle est perplexe. Mais elle ne va pas tarder à le savoir. Je vous lis juste, pour ne pas vous laisser dans l'incertitude, les versets 19 et 20, les deux versets suivants. Sa belle-mère, donc Ruth rentre, sa belle-mère lui demande « Mais où étais-tu ? Dans quel champ as-tu travaillé ? Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention. » Alors Ruth raconte à sa belle-mère chez qui elle a travaillé et lui apprend qu'il s'appelle Boaz. Et Noémie dit à sa belle-fille, « Que l'Éternel te bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivants comme il l'a été envers ceux qui sont morts. » Puis elle ajoute, « Cet homme, oui cet homme, c'est notre proche parent. Il fait partie de la famille. C'est l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. » Voilà, Ruth est au courant. Mais c'est beau de pouvoir faire du bien à quelqu'un sans que la personne sache ni pourquoi, ni comment, ni qui est derrière cette action. Je laisse l'histoire donc en suspens. Ruth continue pour encore deux chapitres. Mais il y a des choses à méditer. Méditer sur la loi de Dieu, sur la façon dont la loi de Dieu nous renvoie à Dieu, sur la façon dont la loi de Dieu nous parle de Dieu, de ce que Dieu est, de son caractère. Méditer sur la souveraineté de Dieu, sur la façon dont Dieu conduit les circonstances, fait traverser, au-delà des moments difficiles, des moments de joie, de direction, des moments où il est fait sentir sa présence, méditer sur le rôle de témoin que nous pouvons avoir, sur la façon dont Dieu peut nous utiliser, nous, chacun d'entre nous, pour dire sa grâce, pour communiquer sa grâce. Amen.